Bonjour à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui en onde Benjamin Nkanabassi, l'avocat senior de la nouvelle clinique juridique Infojustice qui vient d'ouvrir à Saint-Boniface. Alors nous allons parler plus en détail de son expérience en tant qu'avocat et des services de la nouvelle clinique. Alors bonjour Monsieur Nkanabassi, comment vous allez aujourd'hui?
Ben, je vais très bien, merci de m'avoir invité.
Ben, il n'y a pas de problème, merci d'être venu. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à votre parcours en tant qu'avocat? D'où vous vient cette passion pour cette profession?
Ok, avant de me lancer là-dessus, j'aimerais faire une certaine correction, une certaine mise au point sur ce que vous avez dit. En fait, le cabinet s'appelle Nkanabassi Services, NBS Legal Consulting. Maintenant, dans NBS Legal Consulting, il y a des organisations qui ont été créées, dont la clinique juridique, qui est présidée par M. Kouilou. Et il y a une autre organisation qu'on appelle Rescue the Family, qui est une ONG. Donc, le cabinet, en fait, je suis avocat senior et M. Kouilou est mon associé dans ce cabinet-là. Et c'est dans le cadre de ce cabinet-là que nous avons jugé utile de créer une clinique juridique en français, sachant que nous collaborons aussi beaucoup avec Infojustice. D'ailleurs, je suis membre du conseil d'administration de l'AGIFM. Et donc, dans le cadre de nos activités, puisqu'on fait beaucoup de droits de la famille, nous avons trouvé utile de créer une organisation qu'on appelle Rescue the Family. En français, ce serait Sauvons la famille. Donc, ayant fait cette mise au point, peut-être maintenant je peux répondre à votre question, qui est de vous dire quel est mon parcours. Succinctement, je dirais que je suis arrivé au Canada en 2007, venant de France. Donc, je suis citoyen français, j'ai passé beaucoup d'années en France, je suis né au Cameroun. Donc, j'ai poursuivi mes études en France, j'ai obtenu ce qu'on appelle... On appelait à l'époque un DEA, diplôme d'études approfondies, qui correspondrait à un master degree 2 ici. Et je me suis inscrit à l'époque à une thèse de doctorat à l'université de Montpellier et ensuite Nice. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de soutenir ma thèse. Donc, ma carrière, je la voyais plus dans le droit international. Et donc, j'ai décidé de venir au Canada avec ma famille et j'ai dû recommencer, aller à l'université de Moncton, recommencer des études de droit en common law en français. Donc, j'ai obtenu mon JD, Juris Doctor, de Moncton et j'ai eu un stage au gouvernement fédéral à Ottawa de quelques mois. Et ensuite, je suis descendu à Winnipeg faire un stage avec l'aide juridique dans le domaine criminel. Et donc, j'ai prêté serment en 2014. Depuis lors, je pratique le droit au Manitoba. J'ai aussi été appelé au barreau en Colombie-Britannique, où j'ai passé une année. Mais je pratique essentiellement au Manitoba.
Donc, je vois que vous avez fait beaucoup d'études et vous avez fait aussi beaucoup d'expériences dans d'autres provinces, pas seulement au Manitoba. Est-ce que toutes vos études étaient en anglais ou en français?
Ben, on va dire les deux. J'ai étudié la common law en français à Moncton. À l'époque, avant d'aller à Moncton, j'avais étudié à l'université de Winnipeg en anglais, un programme qu'on appelle Project Management, donc le management de projet. Oui, j'ai alterné entre les deux langues.
Et où est-ce que vous avez vu la nécessité finalement d'offrir des services continus en français pour la population manitobaine?
Le besoin, il est criard. C'est une question d'accès à la justice. Dans ma pratique de tous les jours, en droit criminel par exemple, ou en droit de la famille, ou en droit de l'immigration, si on ne sait pas ce qu'on est en train de dire, on a de fortes chances de se retrouver lésé. Je vais prendre le droit criminel, par exemple. Lorsqu'il y a des accusations qui sont portées contre quelqu'un qui ne les comprend pas, ou bien lorsqu'on a une ordonnance de libération d'une personne, il y a des conditions. Il y a toujours des conditions. Par exemple, une condition serait le couvre-feu. En anglais, ça se dit curfew. Je dois vous avouer que même en tant qu'étudiant en droit, je ne connaissais pas le mot curfew. Et même en tant que francophone, je peux vous dire que le mot couvre-feu, c'est pas le commun des francophones qui sait ce que ça veut dire, si on n'est pas été dans un pays en guerre. Donc, lorsque vous avez une condition qu'on appelle observe curfew, ou bien attend court, si on comprend pas ce que ça veut dire, évidemment, on est prédisposé à violer l'ordonnance de la cour, ce qui entraîne des conséquences criminelles encore. Au niveau de la sentence, si on ne comprend pas ce pourquoi on est accusé, si on ne comprend pas la sentence, on peut accepter d'aller en prison pendant des années sans savoir pourquoi on va en prison. Donc, c'est une question aussi vitale pour la liberté, sachant qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre juridique au niveau de l'accès à la justice. Il y a eu beaucoup de débats à l'époque sur le fait que l'accès à la justice en français veut simplement dire qu'on a le droit de s'exprimer dans sa langue, mais qu'on n'a pas nécessairement le droit d'être entendu dans sa langue, ce qui veut dire que je peux parler en français et puis le juge est anglophone. Mais moi, dans ma pratique de tous les jours, j'ai vu que la question des interprètes est une question difficile et complexe. Il m'est arrivé d'avoir des procès où je vais dire quelque chose en français et puis l'interprète va interpréter en anglais. Et je suis obligé d'intervenir pour dire au juge, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je serai donc obligé de faire l'interprétation moi-même en anglais sur ce que j'ai dit en français. Le problème est connu de tout le monde. Les juges le savent, les procureurs le savent, les avocats le savent, que lorsqu'on a un interprète, ce n'est pas la même chose que si l'on parlait dans sa langue et que le juge nous comprenait dans notre langue. Je vous donne un autre exemple très concret. On a un client qui vient d'un pays africain, qui ne parle pas l'anglais, qui est en prison et qui veut faire une demande de libération conditionnelle. Ben, il ne peut pas le faire tout de suite parce qu'il n'y a personne pour le comprendre en français. Donc, la plupart du temps, ces francophones passeront beaucoup plus de temps en prison que les anglophones. Alors, ce client particulièrement, là, il voulait plaider. Alors, il avait 40 chefs d'accusation, 30 desquels étaient des violations d'ordonnances de la cour qu'il ne comprenait pas. Donc, voilà une conséquence très directe de l'accès à la justice en français. Et donc, on lui avait donné des avocats en anglais qui ne parlaient qu'en anglais et lui ne parlait qu'en français. Et puis, petite anecdote, l'avocat lui dit qu'il aura son procès fixé à un tel jour. Et puis, l'avocat lui dit, je vous représenterai. I will represent you. Et puis, le jour du procès, le client ne se présente pas. Et puis, on lui met une autre charge. Donc, chaque fois que tu violes une ordonnance, tu as une charge. Et donc, lorsque moi, je viens m'occuper du dossier, je lui demande, mais pourquoi tu n'es pas venu? Et lui, il est étonné qu'on lui pose la question, pourquoi il n'est pas venu. Il m'a dit, mon avocat m'a dit qu'il allait me représenter. Alors, au départ, j'ai cru que c'était une blague. Mais pour lui, représenter quelqu'un, ça veut dire que toi, tu n'es pas obligé d'être là. Alors, c'est pas quelqu'un qui a fait des études universitaires qui comprend que, voilà, même si on te représente, tu dois être présent. Sur ce même dossier-là, on a eu beaucoup de soucis à la cour. Donc, on est tombé d'accord qu'il allait plaider coupable à toutes ces accusations de violation, mais qu'il irait au procès. Ben, on aurait pu aller contester toutes ces accusations-là, mais ça aurait pris plus d'un an. Il était en prison. Donc, nous les avocats, on a des choix stratégiques à faire. Faut-il attendre un an pour obtenir justice sur ses droits linguistiques pendant qu'il est en prison, ou alors faut-il se débrouiller pour qu'il sorte et qu'il retrouve sa femme et ses enfants? Donc, il devait avoir deux procès en français et plaider coupable à certaines accusations. Bien sûr, l'entente avec le procureur avait été que certaines de ces accusations allaient être annulées parce qu'on avait soulevé la question de ces limites de droits linguistiques. On a deux juges francophones à la cour provinciale, en matière criminelle. Donc, les deux accusations d'agression sur ses compagnes avaient été assignées à ces deux juges en français. Mais maintenant, il voulait plaider coupable à certaines de ces violations. Et là, la Cour nous dit que ce n'est pas possible parce que les deux juges francophones que nous avons sont déjà occupés. Donc, c'était un vrai... Pour moi, c'était un scandale juridique que un justiciable en français ne peut pas exercer ses droits et donc il devait rester en prison beaucoup plus longtemps que le justiciable anglophone. Bon, j'ai soulevé la question devant le juge qui donnait sa sentence et on est tombé d'accord que c'était plus un dysfonctionnement de la cour qu'un manque de juge. Donc, voilà. Donc ça a été discuté avec... les juges en chef, les juges, et puis les choses sont en train d'être prises. Donc voilà un exemple concret que si vous êtes francophone, vous risquez de passer beaucoup plus de temps en prison que l'anglophone.
Puis j'ai aussi remarqué une dernière chose, c'est que vous semblez aussi offrir une sorte de mentorat aux personnes qui sont intéressées par les... tout ce qui est juridique et tout ce qui est légal. Ça peut être aussi des gens qui veulent se lancer dans la carrière ou bien simplement des gens qui veulent en savoir plus. Est-ce que c'est une initiative que vous avez prise vous-même ou est-ce que c'est plutôt un type de programme peut-être que vous voulez mettre en place?
Ben, pour l'instant, vous savez, nous, on est des avocats. Notre travail, c'est à la cour. On est très occupés avec les clients à gauche et à droite. C'est très compliqué pour nous de nous lancer dans la fabrication des programmes. Donc, c'est plus une initiative personnelle, on va dire du cabinet, plus une contribution de notre cabinet à la communauté qui nous a tant donné. Mais s'il y a des bonnes volontés pour mettre ça en projet, oui, on sera preneur. Alors, le problème de la question du mentorat est part de ce constat-là, c'est que le justiciable francophone est sous-représenté. La représentation francophone, elle est très, très limitée. Alors, je vous dis, je prends juste un exemple, la question criminelle, par exemple. Alors, quand on prend le droit criminel, ça part depuis l'accusation, enfin, depuis l'arrestation par la police, qui ne parle en général pas français. Donc, il faut des gens à la police, il faut des gens à la cour, il faut des greffiers, il faut des avocats, il faut des juges, il faut tout ce monde-là. Donc, plus on a de monde à former, plus on sera représenté. Ce n'est pas que des avocats ou des juges. Donc, on offre la possibilité aux gens qui veulent venir en découvrir plus, de venir. Et puis, s'ils veulent découvrir une carrière, nous, on est prêts à donner des postes de stage à ceux qui veulent devenir avocats en français.
Ben, merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données. C'était beaucoup de choses à développer et on espère du coup peut-être vous retrouver à un autre moment dans la radio pour parler plus en détail de tout ce qui est question juridique. Sinon, merci beaucoup et on espère également, bien que je doute que ça n'ait pas de succès, mais on espère le succès pour la nouvelle clinique francophone qui vient d'ouvrir.
Merci beaucoup.
Cet entretien a été rendu possible grâce au programme IJL, Initiative Journalisme Local.